Merci à Christophe. Je suis très heureux de retrouver à nos anciens étudiants de l'ISTA qui dépendent de l'Institut catholique de Paris. Donc je vais vraiment montre en main, hein, puisque je ne vais pas dépasser les 45 minutes, vous présenter des dossiers précis, des œuvres à partir du en gros début du 20e jusqu'à aujourd'hui, de quelques œuvres qui ont fait l'objet de polémiques parfois assez graves, assez importantes. Alors, j'ai choisi d'en présenter un certain nombre pour que vous ayez un panel le plus large possible. La contrepartie de ça, évidemment, c'est que je ne pourrai pas les analyser en profondeur. C'est-à-dire que pour chaque œuvre que je vais vous présenter, vous pourrez passer une heure et demie, deux heures, etc. Parce que tant les paramètres sont nombreux pour comprendre qui est l'artiste, qu'est-ce qu'il a voulu faire, le contexte historique, la réception, etc. etc. Bon. Donc, je me suis dit c'est plus intéressant de faire une espèce de parcours, donc vous ne m'en voudrez pas de ne pas pouvoir approfondir la lecture, mais j'ai l'ambition, j'espère que j'y arriverai, de vous donner quelques clés hein, qui vous aideront vous-même après à prendre position, à interpréter ces œuvres polémiques. Je préfère polémique à blasphématoire parce que c'est un concept qui est très problématique. Alors, j'ai structuré mon exposé qui sera éminemment visuel en trois parties. D'abord, je vais vous présenter des conflits à propos d'œuvres qui ont été exposées dans des églises. C'est-à-dire, si elles ont été dans des églises, c'est bien qu'au départ, il y a eu donc, un partenariat, une collaboration avec des instances ecclésiales, mais qui ont posé problème à un autre moment. Donc, il y a eu aussi un conflit à l'intérieur des églises elles-mêmes pour la réception de ces œuvres. Je vous en montrerai sept. Et ensuite, je vous présenterai des conflits à propos d'œuvres hors église, mais dont les thématiques sont religieuses, hein, sont des allusions, et même plus que des allusions à un patrimoine chrétien. Donc là, il y a eu une polémique, mais qui n'est pas forcément partie des églises. Elle peut, peut-être, mais c'est aussi parfois partie de la société. Ou alors c'est partie de certains groupuscules, et ça a été amplifié médiatiquement. Alors après, ça s'emballe, et on ne réagit pas à l'œuvre, mais on réagit à la réaction, etc. Ça nous échappe. Et puis en troisième partie, je vais vous présenter ce que j'ai appelé deux cas atypiques, c'est-à-dire ce que j'ai appelé un conflit inversé et un conflit résorbé. Alors nous commençons, conflit à partir à propos d'œuvres d'art dans des églises. Alors c'est un petit peu historique mon parcours. Je franchis allègrement la frontière, d'autant plus que je suis à Strasbourg, la frontière est tout à côté. Donc je puise aussi pas mal dans le patrimoine de nos voisins allemands. Alors voici un crucifix d'un artiste Ludwig Gies, qui est représentatif de l'expressionnisme, art expressionnisme, on dit même l'expressionnisme allemand, qui a été exposé dans la cathédrale luthérienne de Lübeck, avant qu'il ne soit retiré par les nazis. Alors là, vous le voyez en contexte d'exposition, l'œuvre a été détruite, mais on la voit mieux, on n'a plus beaucoup d'œuvres, elle se trouve ici, dans l'exposition qui s'appelait en allemand Endartetekunst, art dégénéré. Vous savez que les nazis avaient organisé en 1936 une exposition qui montrait l'horreur de l'art contemporain, à quel point l'art contemporain déshumanisait l'humain. Et il y avait dans cette grande exposition qui avait parti de Munich, qui a circulé dans un certain nombre de grandes villes allemandes, une section qui était consacrée à l'art religieux chrétien. Donc là, on est dans le. Et alors voilà notre crucifix de Gies. Alors vous voyez qu'effectivement il est assez, c'est pas un beau Christ, hein, il est assez effrayant, mais il faut bien voir qu'il a été fait, oui j'ai pas la date, mais juste après la Première Guerre mondiale. Évidemment tout l'art était imprégné des souvenirs de ces jeunes hommes gazés qui revenaient de la guerre, ceux qui en revenaient, hein, avec le visage défiguré, et donc le Christ ici, avec, vous voyez, c'est ses poumons qui ressortent, hein, et comme s'il avait lui-même été gazé, hein, il est à l'image de ce qu'ont vécu ces hommes qu'on envoyait se faire massacrer dans les tranchées. Donc voilà, c'était pas du tout un Christ triomphant, mais il était, voilà, il portait sur lui les souffrances de ces jeunes qu'on envoyait se faire tuer, et donc c'est aussi évidemment une mise en accusation. Alors le voilà, disons, montré, exposé en contexte pour être moqué, en contexte dérisoire, et évidemment après il a été détruit, on ne sait plus où il est, donc on n'a plus que des images d'archives. Mais déjà à l'époque, Guy, c'est ceux qui, il avait quand même des supporters, puisqu'il a réussi à être exposé dans cette cathédrale, ce haut lieu de la chrétienté luthérienne. Et donc il correspondait aussi au sentiment d'un certain nombre de personnes qui s'y reconnaissaient, tandis que d'autres les attaquaient. Voilà, je vous ai montré aussi une image d'archive pour montrer un peu le succès de cette exposition Art dégénéré, qui était gratuite. Hein. Vous avez une, c'était l'entrée à Munich, et l'autre, c'est à Berlin. Et donc, c'était évidemment, on exposait. Aujourd'hui, c'est un certain nombre de ces œuvres expressionnistes qui sont parmi celles qui ont rescapé, évidemment, et ont été rescapées. Mais bon, l'exposition les a protégées d'une certaine manière, parce que comme elles ont été exposées, elles n'ont pas été détruites, mais beaucoup d'autres ont été détruites. Elles se trouvent maintenant dans tous les plus grands musées du monde. Donc ce qui était considéré comme de l'art dégénéré, hein, comme d'art qui avalissait l'humain, est aujourd'hui considéré comme le summum hein, de ce que peut être, ce qui a pu être fait. Et c'était dénoncé par des gens qui par ailleurs assassiner allègrement des millions d'innocents. Donc vous voyez aussi dans quelle perversion on était. Un peu dans la même veine aussi, un artiste, sculpteur, poète, écrivain, etc., Ernst Barlard, je prononce à l'allemande, hein, Barlard, qui a fait dans cette cathédrale à Güstrow, c'est en Poméranie, cet ange volant, Der Schwebende en allemand. Et là aussi, on ne comprend pas très bien pourquoi cette sculpture comme ça a fait problème. Vous voyez qu'il s'inspirait un peu d'une tradition baroque, hein, où dans les églises, ces églises en briques du nord de l'Allemagne et même du nord de l'Europe, on voit souvent ces anges qui sont attachés par des suspendus en l'air, et d'ailleurs ils descendaient, ils montaient un peu selon les temps liturgiques. Et donc là, vous avez cette forme en prière. Alors quand on le regarde, on se pose la question, quelle peut être la polémique d'un objet comme ça? Ben, c'est tout simplement parce que ce n'était pas un ange guerrier. Il était trop pacifique. Hein. C'était quand même à l'époque où on était déjà après entre les deux guerres, une époque de revanche, et on demandait aux artistes de faire des monuments évidemment à la gloire des armées, de la revitalisation du pays. Et évidemment, quelqu'un comme Barlard, qui était profondément pacifique, hein, il a fait aussi des monuments aux morts où il condamnait la violence, il condamnait les armes. Et évidemment, il était complètement en porte-à-faux par rapport à une société qui se militarisait à outrance. Donc vous voyez qui avait raison ici, l'artiste qui était, c'était le prophète solitaire, hein, qui revendiquait des valeurs qui n'étaient plus partagées par une société qui se situait aux antipodes, qui pourtant se disait chrétienne. Alors, en tout cas, là, il a quand même réussi à exposer cet ange dans cette cathédrale. Il s'y retrouve, toujours, mais c'est pas l'ange original qui a été fondu. Alors là, il y a une, bon, j'ai pas le temps de m'y attarder, mais il y a une polémique à l'intérieur de l'église, puisque c'est le conseil de paroisse qui a demandé à l'artiste qui habitait ici d'ailleurs de faire cet ange, qui est en méditation, un peu zen, si vous voulez. Et ce sont les autorités de l'Église, hein, les autorités ecclésiastiques qui l'ont condamné, le trouvant encore une fois trop pacifique, trop paisible. Et donc il y a une confrontation entre la communauté de base et les instances ecclésiales. Là-dessus sont arrivés les nazis, hein, et évidemment, donc l'ange a été emporté, mais la communauté avait caché le moule dans un garage, avait caché le moule qui avait permis de faire ce bronze, ce qui fait que au sortir de la guerre, on a pu le refaire, hein, à partir du même moule. Et vous l'avez actuellement en deux exemplaires, vous le retrouvez, à Cologne, hein, donc dans cette église des Antonins, hein, qui était une église qui est maintenant protestante, et vous avez donc le moulage, et une deuxième, de nouveau sur place, à Güstrow, qui était en ex-RDA, en Allemagne de l'Est, maintenant les nouveaux Länder, et donc voilà, il y a eu un échange de cette communauté de Cologne qui a offert à cette communauté partenaire de l'Allemagne de l'Est, avant la chute du mur, bien sûr, une copie. Donc il y a eu une espèce de réparation, si vous voulez, hein, restauration. Donc c'est une histoire qui a mal commencé, mais là, en l'occurrence, qui a bien fini. Alors, plus près de nous et plus connu aussi, mais ça participe à peu près de la même chose, hein, le Christ, le crucifix de Germaine Richier sur l'église Notre-Dame-de-Grâce sur le plateau d'Assis, en Haute-Savoie. Alors, je le rappelle parce que ça c'est connu, mais ça c'est pas forcément connu de tous. Hein. Germaine Richier, qui était une artiste athée, non-croyante et le père Couturier hein, qui a eu l'idée de faire décorer cette église, vous voyez, remarquez peut-être ces diamants légers là sur la façade, etc., par des tas d'artistes de son époque, indépendamment de s'ils sont croyants, pas croyants, chrétiens, pas chrétiens. Il disait, le père Couturier, moi je veux les meilleurs artistes. Hein. Dieu a droit aux meilleurs artistes. Mon critère, c'est est-ce que ce sont vraiment des artistes reconnus dans le milieu des arts, etc. Et alors, Germaine Richier a fait ce crucifix qui n'a pas de visage. Elle a fait l'effort, elle-même, non-croyante, d'ouvrir la Bible, et elle s'est arrêtée sur les chants du serviteur, hein, du prophète Isaïe. Hein, il n'a plus de visage, etc. Il est sans voix avec les sans voix. Et elle l'a fait d'autant plus torturée, sans visage, que d'une part, cette église est consacrée, était là pour les malades. Il y avait des sanatoriums sur le plateau d'Assis, donc des gens qui souffraient de maux des poumons, etc., de difficultés respiratoires. Certains en mouraient d'ailleurs. Donc elle s'adressait à des malades qui venaient prier là. Et puis, on est quand même 5 ans après la fin de la guerre. Il y avait le souvenir des camps de concentration, de ces morts vivants qui ressortaient des camps, qui n'avaient plus que la peau sur les os, etc. Donc ça a hanté un peu l'imaginaire. Donc, c'est un peu tout ça qui se trouve dans cette sculpture. Donc, et en même temps que Germaine Richier a travaillé à écouter ces malades, ces gens qui venaient prier, et ils lui ont dit, mais en fait, ce Christ nous ressemble, il est à notre image. Et ils ont tout à fait prié. Et puis voilà que des catholiques traditionnalistes liés, et je suis désolé de le dire, l'Université catholique d'Angers, donc près d'ici, se sont offusqués, mais ne sont même pas déplacés pour voir l'œuvre in situ. Ça, c'est quand même quelque chose de très important, c'est que parfois on réagit non pas à l'œuvre, hein, mais à une reproduction, ce qui était le cas ici, une reproduction assez médiocre d'ailleurs, hein, qui se trouvait dans cette reliure sacrée. Et alors, voilà, évidemment, si on veut déjà juger d'une œuvre, il faut aller sur place, la regarder, la découvrir, voir la texture, tourner autour si c'est une sculpture, dans quel contexte passer. Enfin, tout ça, ce sont des éléments qui sans cela, on ne peut pas juger. Oui, il faut déjà faire cet effort. Donc, ils ont fait cette campagne de dénigrement, on ne se moque pas de Dieu, etc. Le Christ, non, un scandale pour la piété chrétienne. Hein, donc, ils étaient complètement dans un schéma qui n'était pas celui de l'accueil, celui de l'écoute, celui de la compréhension, etc. Et hélas, l'évêque d'Annecy a été un peu impressionné par ces critiques venant de théologiens. Alors qu'un an avant, il avait consacré l'église avec le crucifix, ça ne lui avait pas posé de problème, mais après cette plainte, il s'est dit, voilà, oui, en effet, c'est un peu gênant. C'est monté jusqu'au Vatican et il a été donc retiré sur ordre du Vatican. Il est resté pendant 17 ans au purgatoire, on peut dire, hein, dans un sacristie qui se trouve dessous, pas détruit quand même. Hein. Et ce n'est que 17 ans après qu'il a été réintégré, vous allez voir, maintenant in situ, à la demande insistante toujours de ces gens, de ces personnes qui venaient prier avec ce crucifix. Donc vous voyez, il y a aussi, voilà, l'histoire se répète, on est dans un autre contexte que ce que les exemples allemands que je veux montrer, mais c'est à peu près le même phénomène. Aujourd'hui, si vous y allez, vous dites, mais où est le problème? Enfin, vous voyez, il y a aussi des choses qui, à une époque, posaient problème. Aujourd'hui, on se dit, mais c'est quoi le problème, en fait, hein? Le fait que, voilà, qu'il n'ait pas de visage, ça fait un peu tronc d'arbre, et on ne sait pas si c'est la croix ou le Christ. Enfin, vous voyez, cette ambiguïté sur les formes, la réception qui nous semble intéressante aujourd'hui, c'était... voilà, on voulait des formes bien définies, pouvoir lire une œuvre d'art avec des paramètres assez précis. Voilà, une œuvre qui joue sur la polysémie, crée l'incertitude et le doute et les questionnements, et déstabilise parfois un peu trop certains. Autre exemple, un peu près du même style, alors c'est un artiste autrichien. Alors lui, il est encore vivant, hein. Il s'appelle Arnulf Freiner, sans doute le plus grand artiste autrichien. Il a un musée à New York maintenant, enfin, c'est vraiment une sommité, qui a fait ce crucifix, Wein crucifix. Et alors, il a fait à l'origine, c'était pour une chapelle d'étudiants en Autriche. Et là aussi, en 57, vous voyez, c'est à peu près à la même époque, il y a une protestation parce que qu'est-ce que c'est que cette espèce de crucifix, ça n'est pas vraiment un. Cette forme, qu'est-ce qu'il veut dire, c'est cette peinture qui coule. Donc, lui, à la suite de la protestation, il l'a retiré et maintenant il se trouve à la Tate Modern à Londres. Hein, donc, voilà, c'est un prestigieux musée qui a cette, cette œuvre. D'ailleurs, j'ai pris quelques risques en la photographiant in situ à gauche, parce que c'est totalement interdit de photographier, mais moi, je me dis, je pensais à mes étudiants, à mes conférences, je brave l'interdit, d'autant plus que j'ai un mail de Arnulf Reimer lui-même, qui m'a autorisé de reproduire ce que j'ai écrit sur lui, de reproduire toutes ses œuvres, mais là, j'ai remarqué, on m'a fait comprendre que le droit de celui qui possède l'œuvre l'emporte sur l'artiste à l'origine de l'œuvre. Vous voyez, conflit de possession. Voilà. Alors là aussi, si on veut comprendre Reimer, il faudrait s'y attarder longuement, parce qu'il a un style qui s'appelle en allemand les Übermalen ou Übermalungen, c'est-à-dire il recouvre des peintures par des gestes qui à la fois cachent et révèlent. Il révèle tout en cachant. Et cet artiste qui était aussi assez anti-religieux, anti-chrétien, anti-tout d'ailleurs, anti-toutes les institutions, il faut se replacer dans le contexte de ce qu'était la Vienne de l'après-guerre. Hein, il est de la génération de tous ces jeunes artistes qui demandaient des comptes à leurs parents. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle société vous avez produit pour créer ce qu'a été le nazisme, etc. Cet artiste a eu la chance de trouver sur son chemin, je le dis très rapidement, c'est quand même intéressant, un interprète théologien en la personne c'est un monseigneur, mais en fait c'est monseigneur en tant que titre, donc le prélat qui s'occupait de la cathédrale Saint-Stéphane à Saint-Étienne à Vienne, qui est tombé en arrêt sur cette peinture. Bon, je ne peux pas vous montrer d'autres exemples, mais fait de recouvrement, de dévoilement, etc. Mais c'est plein de spiritualité, ça. C'est plein de spiritualité. Et ce qui était considéré comme agressif, comme en décalage, ça l'était aussi d'une certaine manière. Lui a dit, mais c'est peut-être, il y a peut-être de l'agression, mais il y a autre chose que ça. Il y a aussi une proposition. Il y a les deux. Hein. Et il a ouvert une galerie à côté de la cathédrale Saint-Étienne à Vienne, d'art contemporain, alors d'art, et tout le monde, comme prélat, etc., s'attendait à ce qu'il expose des icônes. Orthodoxe, ça fait mal à personne. Et le premier qu'il a exposé, c'est Reimer. Alors, le scandale, etc. Lui, il en veut à l'église, il en veut tout le monde, etc. Il dit, mais non, mais vous avez rien compris. C'est plein de spiritualité, ça. Et donc, il y a eu un dialogue qui s'est nourri entre, il s'appelle Otto Maurer, hein, Maurer comme le mur, Otto Maurer et Arnulf Reimer, ils ont dialogué ensemble, et ce dialogue s'est approfondi à tel point, ça c'est quelque chose que je vous livre, assez récent, qu'il y a quelques années, Reimer a reçu le titre de docteur honoris causa de la faculté de théologie catholique de Münster en Westphalie. Donc il est maintenant docteur en théologie catholique. Hein, celui qui, au début, était très agressif contre le christianisme, contre le mélange du christianisme et des pouvoirs, etc. etc. Donc vous voyez, il a fait un sacré chemin, et s'il l'a fait, c'est parce qu'il a accepté ce dialogue, il a évolué. Les deux, d'ailleurs, ont évolué chacun en contact de l'autre. Avec ce Otto Maurer. Enfin, c'est toute une histoire passionnante. Hein. Et aujourd'hui, vous avez Reimer, vous avez des prêtres en Allemagne qui célèbrent avec des étoles, avec du Reimer sur leurs étoles, etc. Vous avez dans la cathédrale de Stuttgart, vous avez un Reimer magnifique qui est sur. Enfin voilà, il est quasiment presque devenu un artiste un peu trop officiel même dans les milieux chrétiens, surtout catholiques. Germanique, mais au départ c'était pas du tout ça. Donc vous voyez que les positionnements peuvent évoluer et que c'est en tout cas là il a eu la chance de rencontrer un interprète ouvert à l'art. Alors autre exemple un tout petit peu similaire, c'est Georg Baselitz, hein, artiste vivant qui est très connu, hein, qui un des très grands qui expose un peu partout dans le monde entier. Et alors lui il a son motif, c'est ce qu'on appelle le Umkehrung, c'est-à-dire qu'à un moment il s'est mis à tout faire la tête en bas. Les maisons, les arbres, les personnes, etc. On est tous à la tête. Voilà. C'est un peu son style, comme ça. Il a fait, et alors parmi tout ce qu'il fait, il a une série autour du Christ, danse autour de la croix. Et donc, vous voyez, c'est un petit peu surprenant, effectivement, au départ. Et alors, il a eu une idée, parce qu'il était très ami avec un pasteur luthérien d'une petite église à Loutrum, près de Hildesheim, petite église baroque, etc. Et il a eu l'idée d'offrir, alors qu'il était déjà connu, hein, d'offrir, hein, ce tableau que je vous montre. Qui faisait un petit peu bizarre dans ce décor baroque, mais c'est très à la mode aujourd'hui de mélanger du contemporain et de l'ancien sur mon style, etc. Et alors là, ça crée une polémique, alors vraiment, puisque le tiers de la paroisse a quitté l'église, alors, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur, etc. C'est insupportable, le Christ à tête en bas, bref, au lieu de chercher à comprendre, bon, peut-être qu'il y a eu un petit manque de pédagogie, on ne sait rien. Mais alors, donc, ça a vidé un tiers de la paroisse, mais alors, en même temps, ça s'est médiatisé, et un des 40 entiers de personnes qui sont arrivées pour venir voir l'objet de cette polémique. Donc il y a eu, voilà, il y a ceux qui partaient, puis ceux qui arrivaient. Non, ceux qui arrivaient, ils repartaient aussi. Enfin, bref, donc au bout d'un moment, Bazid s'est dit, bon, écoutez, moi je voulais faire plaisir, c'était, bon, il n'est pas croyant, hein, mais c'est, voilà, c'était une marque de cette sympathie qu'il avait nouée avec ce pasteur et sa communauté. Bon, il dit, moi je voulais, bon, si c'est ça, je reprends mon temps de Sunkreuz, là, et puis il est allé, maintenant il se trouve dans un musée de Berlin. Donc vous voyez, là aussi, voilà, un loupé complet, pourquoi cette œuvre n'a pas été reçue pour ce qu'elle était. Alors que, voilà, considérée comme polémique, alors elle n'était pas du tout dans l'esprit de l'artiste. Gerhard Richter, aussi un très grand, qui a fait cette grande verrière à la cathédrale de Cologne, donc vous voyez, c'est pas rien. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir monter dans les tribunes, là, je vais donc vous prendre ça, surtout cette photo réalisée par moi-même, de près, ces carrés comme ça, qui donnent une atmosphère très particulière à une église de Cologne qui est très, vous savez, qui est à la partie gothique, mais en partie néo-gothique, hein, ça, c'est un gothique qui s'est prolongé jusqu'au 19e siècle, très chargé, très lourde, et on respire un peu, enfin, pour avoir que des saints auréolés partout, etc. Enfin, voilà, ça donne une ambiance assez particulière, et là, l'archevêque de Cologne, Joachim Meissner, qui a aussi rien compris à ce projet, même il a dit, enfin voilà, un malheureux mot que j'ai pas reproduit ici, en disant, mais enfin, on n'est pas dans une mosquée ici. Enfin, l'art de dire, l'art non figuratif, c'est réservé à l'islam, c'est pas le christianisme, c'est forcément figuratif, sinon c'est pas de l'art chrétien. Enfin, vous voyez, cet archevêque avait sans doute beaucoup de qualités, mais sans doute pas celle d'être très réceptif à l'art contemporain. Voilà, je ne poursuis pas ça, mais là, il y a eu aussi une polémique. Et puis celle-là, que vous connaissez sans doute aussi, Paul Freyer, qui est... alors là, c'est assez étonnant, puisque c'est l'évêque de Gap, hein, Monseigneur Di Falco, c'est lui-même, hein, qui a demandé à l'artiste de mettre cette œuvre, voilà, c'était pendant... Alors là, la différence par rapport à ce que je vous ai montré, c'est que c'était une œuvre qui était en contexte d'exposition. C'est-à-dire qu'il faut faire aussi la différence d'être exposé pour un certain temps, et ensuite on l'enlève, des vitraux, des sculptures, au mur, etc., où là, ça reste, et puis voilà. Mais là, il avait voulu le faire, je crois que c'était le temps de Pâques, et dans son argumentation, parce que là, c'était aussi donc un homme d'église et un théologien aussi assez ouvert à l'art contemporain, c'était de dire, mais je veux que voilà, les chrétiens retrouvent le sens de Pâques. C'est pas simplement ce Christ qui ressuscite dans la gloire, mais c'est quand même d'abord une expérience très douloureuse d'une mort, et d'une mort très cruelle, hein. Et voilà, on nous remet un peu en contexte, qu'est-ce que ça veut dire que faire mourir une mort, il y a une torture, hein, un humain. Et donc il a l'idée d'exposer en tout cas cette sculpture assez réaliste, hein, sur le Christ, sur cet instrument de mort, chaise électrique. En même temps, il y avait sans doute, hein, mais je n'ai pas tout le dossier en main, évidemment une protestation contre des États chrétiens qui continuent à pratiquer la peine de mort. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, si on est chrétien et qu'on continue à aller dans ce sens-là. Alors, un dernier exemple parmi ces œuvres en contexte d'église, mais il y en aurait bien d'autres. Alors là, je reprends, c'est quelque chose de tout modeste, hein, près de là où j'habite, c'est-à-dire en Alsace, où je me suis aperçu d'ailleurs qu'il y a des œuvres très médiatisées, connues, mondialisées, etc. Puis dans des coins localement, ça m'arrive assez souvent quand je visite des églises, etc., je m'aperçois qu'il y a des œuvres qu'on fait polémique, et parfois la polémique n'a pas tout à fait terminée non plus d'ailleurs. Et alors là, c'est un exemple assez typique que je voulais vous montrer, puisque on est dans une église simultanée. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une église simultanée, petite explication, c'est-à-dire qu'une église qui est dont le cœur est catholique et la nef est protestante. C'est une bizarrerie, hein. C'est une bizarrerie qui est typique et qu'on doit à Louis XIV. Hein, parce que quand Louis XIV a envahi l'Alsace, qui était surtout dans le nord de l'Alsace majoritairement protestante, c'était une manière de vouloir recatholiciser en force. Il fallait trouver cette famille catholique dans un village protestant, et alors on amputait l'église catholique devenue temple protestant. protestants, évidemment, à la Réforme, elle redevenait catholique, et alors on prenait le cœur, évidemment, pour la célébration de la messe, alors le cœur était catholique, et la protestante. Inutile de vous dire que les relations devaient être un peu tendues, enfin, ça ne se passait pas très bien, c'était, etc. Et alors souvent, comme quand il n'y avait pas les sept familles, eh bien, on s'arrangeait qu'elles y soient, c'est-à-dire que, en sorte qu'on trouvait des familles un peu fictives, et puis ça y est, c'était décrété. Donc c'était quand même un peu une spoliation et quelque chose d'assez violent, hein, d'assez violent. Je vous le dis parce que j'ai entendu il y a quelques années la conférence d'un universitaire américain à Strasbourg qui donnait ça comme exemple d'un parfait œcuménisme. Regardez, les Français étaient très œcuméniques à cette époque puisqu'ils partageaient. J'ai dit, écoutez, excusez-moi, c'est vraiment l'inverse. Hein, c'était quand même dans un contexte de pré-persécution. Quand même, hein. C'était pas du tout. Voilà, c'est une cohabitation forcée, obligatoire, une prise de pouvoir. Enfin, ça se passait très mal. Bon. Heureusement, on n'en est plus là. Maintenant, ça se passe bien. Et donc ici, les deux communautés ont eu un projet de faire. Voilà, c'est un peu modeste, hein, parce que c'est des communautés qui sont un peu pauvres. Hein. Je voulais aussi vous montrer que parfois, c'est les communautés elles-mêmes qui sont parties prenantes de projets, et elles ont voulu donc voilà remplacer ces trois verrières où il y avait des saints, des saints et des saintes, par quelque chose d'un peu plus moderne. Et cet artiste, François Brucci, qui a fait quelque chose qui a des vitraux qui ont l'intérêt de vous montrer, voilà, se voir aussi à l'extérieur. Hein. C'est-à-dire que souvent un vitrail de l'extérieur, ça ne donne pas grand-chose, mais là, on peut le voir. Et assez très sobre. Alors, vous voyez que ces deux lignes qui se croisent et qui se rencontrent, ça pourrait avoir un symbolisme multiple. Ça pourrait symboliser ces deux confessions hein, qui sont dans le même lieu et qui se retrouvent après s'être séparées. Ça peut, comme l'église s'appelle Saint-Michel, ça peut être aussi une allusion à l'archange Michel. C'est à la fois très, très minimaliste, très sobre, mais je crois assez parlant. Et pourtant, il y avait un comité, de ces communautés plus municipales, puisqu'on est dans le contexte alsacien, etc. Mais le projet a été assez mal reçu par le reste de la population. On a demandé à ce que ce soit retiré, etc. Et donc là, ça aurait pu mal se passer. Et alors, ce qui s'est passé, c'est. Là, je vous en parle assez de manière assez détaillée parce que j'étais en contact avec celui qui a conduit tout ce projet. Et en fait, il s'est dit, mais comment désamorcer la polémique? Il y avait vraiment deux fronts. Il y avait ceux qui étaient convaincus du projet, qui étaient quand même une petite minorité, et puis le reste, des gens qui ne voyaient pas l'intérêt, et surtout qui s'attendaient à ce qu'on représente des figures de la foi modernisées, disons, voilà, des maris, des saints, des saintes, etc. Vous voyez ça, mais c'est pas de là. Alors ils ont eu le groupe de pilotage a eu une idée très intéressante. Ils disent mais on va faire, c'est de l'art contemporain, on va faire appel à des associations d'artistes contemporains. Il y en a, hein. Il y en a des associations libres, d'autres qui sont reconnues ou subventionnées par le département ou la région, et on va leur demander simplement qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Et ils ont fait appel à un certain nombre d'artistes, donc n'étaient pas du tout partie prenante du projet, pas du tout non plus partie prenante des communautés, etc. Et ils ont tous dit, mais c'est vraiment une création. C'est une création, il y a ce côté novateur, mais il y a aussi cette écoute de ce contexte très particulier. Donc l'artiste a aussi été à l'écoute de l'esprit du lieu, etc. Il doit être quelque chose à la fois novateur. C'est d'ailleurs souvent quand on creuse, la nouveauté n'est pas si nouvelle que ça. Enfin, derrière, c'est l'aspect nouveauté des formes, il y a souvent des références à des motifs plus anciens ou une histoire locale, etc., etc. Donc ce sont eux qu'on produit un avis tout à fait favorable. Et alors ça, la polémique s'est désenflée tout seul. Ah ben si les spécialistes sont comme ça, on est dans des contextes, on est assez obéissant vis-à-vis des autorités, hein, qu'elles soient ecclésiales ou artistiques, etc. Mais donc du coup voilà, le fait que les spécialistes d'art contemporain aient dit mais non, mais pour nous c'est de l'art et même un art tout à fait respectable, et même vous devriez être fier hein, d'avoir un artiste qui a réussi. Ah bon, d'accord. Voilà. Et maintenant, je ne suis pas retourné, mais si ça se trouve, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait maintenant un petit panneau à l'entrée en disant regardez, on a un véritable artiste contemporain. Voilà, donc quelques polémiques qui se sont bien ou mal terminées, ça dépend. Dans lesquelles l'Église était partie prenante, mais souvent avec des fractions. Une minorité convaincue et une majorité à convaincre, voire opposée. Et maintenant, je vais vous présenter quelques œuvres hors église. Où là, l'artiste, alors ça, c'est autre chose, puisque l'artiste n'a rien demandé à personne. C'est-à-dire que l'artiste, il fait ce qu'il veut. Et après, c'est reçu et c'est pas reçu. Alors, un des exemples les plus peut-être dramatiques, c'est, je remonte un peu chez l'expressionniste allemand, Emil Nolde, expressionniste allemand, qui a fait ce grand. Alors, c'est un polyptyque, c'est-à-dire un tableau en 9 parties, une partie centrale, et 2 fois 4 panneaux latéraux, les dimensions sont énormes. Et ce polyptyque sur la vie du Christ, hein, ceux qui connaissent un peu Rotterdam-Bissenheim, Michael Marx, voient qu'il s'en est inspiré. C'est un artiste du nord de l'Allemagne, hein, qui était dans le Schleswig-Holstein, presque à la frontière du Danemark. Il avait fait d'ailleurs 2 fois le trajet jusqu'à Colmar pour aller voir le Rotterdam-Bissenheim. Il nous a fait ça. Alors, on a les écrits de Nolde, pas traduits en français, dans lesquels il raconte qu'il a été pris d'une espèce de crise mystique. C'est-à-dire que, voilà, en lisant les évangiles, il se sentait très proche du Christ, il essayait de le suivre, mais à sa manière. Hein, avec ses... Alors, ça a évidemment très mal déplu à tout le monde, hein, à tout le monde, ce politique. Alors, d'abord, c'était d'origine luthérienne, hein, à son église. Et puis après, il s'est dit peut-être que si les luthériens ne l'acceptent pas, peut-être que les catholiques sont un peu plus sympathiques, c'était pareil. Parce qu'il a essayé, le tableau a été exposé. Un an après, il y a une grande exposition d'art religieux, ça existait à l'époque, d'art religieux contemporain à Bruxelles. Et donc il a été exposé, il est allé jusqu'à Bruxelles, et le roi des Belges, je crois que ça devait être Léopold, hein, en avant-première a visité ça, et quand il a vu ça, une salle qui est bon, qu'est-ce que c'est que cette horreur ? C'est ça, on ne peut pas montrer ça, hein, tellement ça ne correspondait pas à un Christ, joli, etc. Et donc il a dit, je ne veux pas que mes sujets voient ça. Donc il a été exposé mais non montré, c'est-à-dire que la salle est restée fermée, personne ne l'a vu. Donc les luthériens l'ont refusé, n'ont jamais voulu exposer dans une église. En Belgique non plus. Ensuite il a essayé ce qu'on appelait les Sonderbund, enfin des expositions un peu parallèles, etc. Ça n'a pas marché non plus. Et puis Sommum, les nazis, alors quand ils ont vu ça, elle a eu droit à être exposée dans l'exposition Art dégénéré. Donc vous le voyez ici en contexte d'exposition, avec un slogan que je n'ai pas le temps de traduire, qui s'en moque. Et vous voyez ici tous ces officiers nazis, hein, qui exposent devant cette horreur, hein, pour montrer à quel point les mêmes qui, d'un côté, faisaient mourir des millions d'innocents, osaient se révolter contre une peinture qui. Alors, qu'est-ce qui déplaisait énormément ? C'était le fait, il y avait deux choses, il y avait le fait qu'il osait représenter le Christ et les apôtres en non-arien, hein, c'est-à-dire en sémite. Hein. Il allait s'inspirer de bohémiens, de figures, etc., sur leur basané, etc. Bon, c'est pas des blonds aux yeux bleus, alors ça n'allait pas du tout, évidemment, clair de temps. Et puis c'était le style non fini, c'était le style expressionniste, où c'était pas parfaitement fini. Puis les couleurs, l'intensité des couleurs, où il faisait... vous voyez, le Christ, il a des lèvres rouges, la peau jaune, parfois des cheveux violets, parce que c'est le langage expressionniste, c'est que l'intensité de la couleur est censée représenter l'intensité de l'émotion, hein, qui me saisit face à une personne, un sujet, une thématique, etc. Donc vous voyez, c'est le code couleur est complètement inversé. Et donc voilà, tous ces éléments mis bout à bout font que, il a été moqué, exposé, etc. D'une certaine façon, ça l'a sauvé, puisqu'on peut aller le voir maintenant dans la fondation Nolde à Zebul, dans le nord de l'Allemagne. D'ailleurs, il est venu à Paris il y a quelques temps, dans le cadre d'une grande exposition Nolde. J'étais très ému quand je suis allé le voir au Grand Palais. Alors ça, c'est autre chose. Georges Gross, artiste communiste, hein, qui était un des rares, de la mouvance... communiste en Allemagne entre les guerres, qui s'est opposé contre, c'était vraiment fondamentalement un pacifique, qui s'opposait contre la militarisation de la société et évidemment contre sa nazification, et qui a représenté ce Christ avec ce masque à gaz, avec ce slogan Maul halten und weiter dienen, ferme ta gueule et continue à servir, pour se moquer un petit peu à la fois de la militarisation, de l'embrigadement de ces jeunes, mais aussi de l'alliance entre l'Église et les pouvoirs et l'industrie aussi, l'industrie guerrière. Et évidemment, là, il a eu droit à plusieurs procès à cause de ce dessin. Et c'est l'image que je vais vous montrer derrière. Il a même été utilisé par les nazis qui, vous savez, en même temps qu'ils ont, après l'incendie du Reichstag, accusé un militant communiste, ont mis à côté ce Christ de Gross avec Gott los Ischkeit, sans Dieu. Hein, voilà qui est cet artiste qui ose voilà, faire preuve d'un athéisme grossier en représentant le Christ de cette façon, alors qu'il était convaincu que voilà, tout le monde allait dans le mur et que la vocation des églises et des chrétiens aurait été, hein, à cette époque-là, de dire stop, hein, au langage des armes, à la militarisation et à la vengeance sur l'autre. Voilà. Heureusement, il a senti le vent tourner et dès 33, janvier 33, il est parti aux États-Unis, ce qui fait qu'il a eu la vie sauve. Alors là, c'est plus tout à fait, enfin, on est plus dans du design, dans des affiches, que dans de l'art à proprement dit, mais ça, je voulais vous montrer cet exemple parce qu'il y a eu cette polémique autour de l'affiche de Oliviero Toscani, hein, sur le film Amen de Costa Gavras, hein, c'était en 2002, où là, il avait osé transformer une croix chrétienne en croix gammée. Alors, avec Amen, le film du Ben était Amen, et alors, il y a eu tout un tas de campagnes, on a commencé dans Télérama d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce mélange, etc. Et d'ailleurs, là, moi, j'ai pris la plume à l'époque en disant, mais écoutez, vous faites une double erreur de lecture, de compréhension, d'une part, parce que vous ignorez le contenu du film, parce que l'affiche est totalement en adéquation avec le film qui dénonçait les liens entre l'Église, et en particulier l'Église protestante, et le nazisme. Hein, c'est ce qui avait créé un parti des chrétiens allemands, des chrétiens qui étaient à la fois chrétiens et nazis, donc qui était une aberration. Et malheureusement, trop peu nombreux étaient ceux qui s'y sont opposés. Mais deuxièmement, c'est aussi une ignorance historique, parce que ces chrétiens allemands, justement, qui étaient chrétiens, avaient inventé un logo, ils avaient un logo, ils avaient des drapeaux, etc., qui était bien une croix, qui était une croix gammée, c'est-à-dire que le mélange des deux était réel, c'est pas une invention du graphiste. Alors je sais pas si Toscani le savait ça, hein, parce qu'il a peut-être retrouvé, etc. Mais moi j'ai retrouvé des images d'archives, en disant, mais regardez ce qu'ils montrent. Alors c'est une forme un petit peu différente, mais vous aviez des défilés, vous aviez des chrétiens allemands qui avaient la croix chrétienne et qui se prolongeait dans la swastika. Donc la croix gammée. Donc il est tout à fait dans la vérité historique. Donc ceux qui ont réagi, ceux qui ont protesté, c'était par méconnaissance, hein, du contexte, du contenu du film et du contexte historique. Donc première chose à faire quand même, s'informer, hein, faire œuvre un peu d'historien, etc. Alors autre affiche, etc., qui a créé une polémique, où là moi j'ai dû intervenir parce que l'affiche Girbeau de Marie-Thé Françoise Girbeau, vêtements pré-apportés, etc., cette scène inversée en quelque sorte, hein, où Jésus est une femme, les disciples sont une femme, sauf Jean qui est un homme, etc., voilà, a créé une polémique. Alors c'est pas l'Église catholique, c'est une association croyance et liberté, je sais pas les liens, etc., mais qui a quand même fait un procès à cette firme, exigeant le retrait de l'affiche, qui a été retirée d'ailleurs assez vite, mais l'Église a perdu en cassation, hein. Et entre les deux, alors je crois avoir eu une petite influence là-dessus, parce que j'avais fait une analyse de cette œuvre en disant, mais attendez, là aussi vous prenez, j'ai pas le temps de faire toute la démonstration, mais vous prenez la scène de Vinci comme modèle, mais la scène de Léonard de Vinci à l'époque, elle était polémique, elle a créé énormément de réactions, on était contre, hein. Il dérogeait par rapport à ce qu'on s'imaginait à l'époque être une scène. Alors, ce qui était à l'époque très provocateur, aujourd'hui est considéré comme un modèle, etc. Bon, vous voyez, et en fait, voilà. Donc là aussi, retourner aux sources, revenir au contexte d'origine, et la polémique souvent disparaît. Le Peace Christ de Serrano, je ne vais pas m'y attarder, parce que. Si, mais bon, je ne peux pas arriver au bout. Alors, il me reste quoi, 10 minutes? Donc, bon, juste un mot, Serrano, ça a été fait en 87, hein, pendant des décennies, il n'y a pas eu de problème, ce soi-disant Christ trempé dans le crucifix trempé dans l'urine, mais j'attire votre attention sur le fait que l'œuvre elle-même, ce n'est pas un crucifix trempé dans l'urine, c'est la photographie, c'est une photographie avec des effets de transparence, c'est tout. Et si. Vous allez un peu plus loin, il vous explique que pour faire ça, il a mis un crucifix dans l'urine et, en expliquant que l'urine est une matière qui a fait des effets de transparence et que, je vais, voilà, comme le sang, l'urine, etc., c'est des matières qui sont appréciées. D'ailleurs, à la Renaissance, les artistes qui faisaient eux-mêmes leurs couleurs utilisaient l'urine comme, pour délayer les couleurs. Enfin, voilà, donc c'est une matière, voilà, qui est peut-être aussi artistiquement très utile. Et qui a été vandalisé, alors une première fois à Melbourne en 97, et en 2011 à Avignon, alors avec Jérôme Alexandre, on reviendra parce qu'il a écrit un article dans Le Monde pour défendre la démarche, il connaît d'ailleurs, voilà, je
te laisser en parler tout à l'heure, mais je voulais juste dire que cette même œuvre a été exposée à Paris, donc avant 2011 à Avignon, elle a été exposée dans l'exposition Presse du Sacré au Centre Pompidou à Paris, et que des centaines de milliers de personnes avaient vu ça, personne n'y a eu aucune polémique. Pourquoi elle est apparue tout d'un coup, quelques années plus tard, à Avignon, dans un autre contexte, etc., par évidemment des catholiques traditionnalistes, peut-être titillés par l'un ou l'autre. Donc, vous voyez aussi des questions de pouvoir et de culture. Voilà. Et l'histoire se répète parce qu'on a eu l'honneur du Christ nous oblige. On croirait retrouver le Christ, le trac de la polémique d'Assis ici pour obtenir le retrait du scandaleux cliché d'un crucifix plongé dans la mer du Rhin. Vous voyez, là aussi. Donc, on va polémiquer sur la base d'informations un peu erronées. Autre œuvre magnifique qui a aussi fait l'objet d'une polémique il n'y a pas très longtemps, Castellucci, hein, sul concetto di volto nel figlio di Dio, sur le concept du visage du Fils de Dieu. J'ai trouvé cette très belle phrase en Télérama. Castellucci réalise une allégorie qui frise le sacrilège, mais s'achève en prière. Hein, c'est une œuvre magnifique. Hein. Pendant une heure, vous étiez face à face avec ce Christ inspiré du Salvator Mundi d'Antonello de Messine, retouché, hein, et il y avait toute une relation entre le Père, le Fils, etc. Donc c'est une œuvre qui pourrait s'interpréter à plusieurs niveaux, théologique, esthétique, etc., le Père, le Fils. Et évidemment, ça a choqué les gens parce qu'il y avait des histoires aussi d'excréments là-dedans, etc. Donc tout de suite... on a l'impression qu'on est dans le blasphème, dans l'insulte, etc. Alors que pour le réalisateur, c'était un acte de foi. Et la meilleure preuve, c'est que j'ai été invité, il y avait quelques personnes qui étaient invitées quand il est passé à Strasbourg, Castellucci, chez les Dominicains, dont un des Dominicains a été le porte-parole de cette. Il a été tellement fasciné par la portée spirituelle de cette pièce de théâtre qu'il est devenu le porte-parole officiel de Castellucci. Alors vous aviez d'un côté des traditionnistes catholiques qui disaient c'est un blasphème, etc. Et d'un autre côté, vous aviez un Dominicain qui disait mais j'ai jamais vu une œuvre aussi spirituelle. Alors, vous voyez, ça peut être des conflits d'adoration qui allaient vous poser à l'intérieur d'une même, d'une même église. Et là, Castellucci nous a dit, enfin j'ai tout le script de son interview, il dit mais j'ai fait cette pièce de théâtre en ouvrant un livre d'art et en voyant ce Salvator Mundi d'Antonio da Messine, j'ai eu un choc qui était, je ne peux pas dire s'il était uniquement esthétique, uniquement religieux ou les deux, mais c'est ce choc-là qui m'a fait me lancer dans le script de cette pièce avec ce Christ qui nous regardait pendant une heure fixe. Donc vous voyez, une magnifique, quasiment confession de foi qui a pu être interprétée comme une œuvre, disons, soit blasphématoire, soit injurieuse, etc. Vous voyez que les écarts d'interprétation sont énormes. Hein, alors je termine. Je crois que je suis dans les temps. 5 minutes, c'est parfait. Par les deux cas atypiques, parce que il y a des cas qui rentrent dans aucune des catégories, mais je voulais quand même. Ça rentre en tout cas dans la catégorie conflit, divergence, et dans les deux cas, alors ça c'est quand même plus ou moins bien terminé. Ici nous sommes à Kassel, en Allemagne, en Hesse, et Kassel, il y a tous les 4 ans ou 6 ans, je ne sais pas, la Documenta, une exposition. Une des plus grandes d'art contemporain international. Et là, vous avez la photo de la Friedrichplatz avec le bâtiment Fredericianum dans lequel se trouvait le corps de l'exposition. Puis après, c'est une exposition qui va en plein air, il y a un grand parc, etc. Alors, il se trouve qu'en face de ce bâtiment historique, vous avez une église catholique qui s'appelle l'église Sainte-Élisabeth, qui est dans le périmètre, qui se trouve de fait dans le périmètre de l'exposition. Et la communauté catholique a décidé de dire, mais puisqu'il y a une exposition d'art, nous aussi, on va présenter un artiste, etc. Et ils ont demandé, donc voilà le cadre, ils ont demandé à un artiste qui s'appelle Stefan Balkenhol de mettre cet homme, sur un globe, qui évidemment est un peu symbolique, un symbolisme christique, dans cet espace vide de ce clocher, sur ce globe, etc. Et... Alors là, la polémique, elle était inversée, c'est-à-dire que c'est la commissaire d'exposition, Caroline Christophe Bacardiet, hein, qui a attaqué l'Église en disant « Mais vous n'avez pas à faire une œuvre d'art, c'est mon exposition. » Alors la communauté catholique a dit « Ben non, mais nous, on est en consonance, au contraire, on est en consonance, on va montrer, ah non, vous ne m'avez pas demandé l'autorisation, etc. » Elle a tenté un procès, hein, procès à la communauté. Et donc avec un livre, vous avez un livre qui raconte toute l'histoire des procès. Là, heureusement, l'Église catholique l'a gagné. Donc vous voyez, parfois l'intolérance peut être dans l'autre sens. Hein, voilà, ça peut être certes dans les milieux des arts, voilà, une question de pouvoir, etc. Alors que le résultat était tout à fait. Voilà, ça c'est une petite. Avec sur Stefan Balkenhol qui a ce même. Il a, c'est un peu son symbole qui promène partout, cet homme avec cette chemise blanche, pantalon, qui se trouve à Amiens. Si vous voulez le voir, c'est un peu plus près d'ici. Et je termine, alors ça c'est un cas tout à fait récent aussi. C'est en face de Strasbourg à Kehl, donc on franchit le Rhin et le pont. Et il y a une petite communauté enfin catholique dans le sud de la ville, qui s'appelle une commune qui s'appelle Goldsteuer, qui appartient à Kehl, où le diocèse avait décidé de fermer l'église. Grande église ici, et puis trop grand, il n'y a plus assez de pratiquants, c'est fini. Et là, la communauté et le prêtre ont dit, ah mais non, on ne va pas fermer ça comme ça, qu'est-ce que c'est que ça, etc. On va, voilà, c'est un défi, on va essayer de demander à un artiste d'investir l'église et d'en faire quelque chose. Hein. Et ils ont demandé à cet artiste, Stefan Strumbel, hein. Il a relooké l'église en quelque sorte, hein. C'est un style, c'est très flashy, hein. Avec des lancettes violettes, des néons, un peu, voilà, c'est même, si vous voyez en vrai, c'est un peu criard, hein, mais ça plaît, hein, des grosses bonbons, etc., et, avec ces lancettes, et tout ça, ça change, hein, c'est des lumières qui changent, alors c'est pas du tout lié au temps liturgique, hein, c'est plutôt des... et du coup, il y a tout un public qui est venu, alors c'est à l'inverse, alors, qui est venu d'abord voir l'œuvre. Et puis qui s'est dit, mais finalement cet espace est sympa parce qu'il n'y a pas que ici l'œuvre, c'est l'ancêtre, ça se termine, et puis de l'autre côté vous avez une vierge aussi, enfin voilà, il a complètement changé l'atmosphère d'une église qui était assez banale des années en béton, des années 70, et du coup, eh bien, il y a une communauté, disons, ecclésiale qui s'est reconstituée, hein, au départ par des gens qui sont devenus fans de l'œuvre, en disant, mais c'est génial ce truc-là, etc. Et puis qui se sont dit, mais en fait, et qui ont réalisé que c'était aussi un lieu de prière, un lieu de rencontre. Du coup, les quelques membres de la communauté qui étaient là ont rebondi là-dessus et en ont fait un projet. Et maintenant, l'église est ouverte. Alors, donc, décision du diocèse, on rouvre l'église, on décide d'affirmer, on l'ouvre. Parce que la communauté locale avait décidé de voilà, faire appel à cet artiste, lequel artiste nous dit qu'il est totalement athée, hein, mais il dit, j'ai été intéressé par ce défi, et surtout il était intéressé par l'imaginaire. On dit, bon, toi, je me promène en campagne, c'est crucifix, c'est vierge, etc. Ça me parle, hein, c'est des formes qui parlent à mon imaginaire, et pour moi, ça fait partie, disons, c'est une richesse qu'on ne doit pas perdre. Donc voilà comment un artiste athée a contribué à reconsolider et peut-être recréer, rendre vivant une communauté catholique qui était moribonde. Et, qui est, alors, voilà. Et maintenant, c'est ouvert tout le temps, hein, vous pouvez y aller. Des gens qui devaient l'accueil. Je termine parce que je crois que j'ai terminé mon temps de parole. Merci de m'avoir.